1920, pour la première et unique fois, c'est la Belgique qui accueille les JO. Les premiers Jeux de l'entre-deux-guerres ont lieu à Anvers. Pour comprendre ce choix, il faut remonter quelques années auparavant. 1914, début de la Première Guerre mondiale. Voilà qui est durement ressenti par le mouvement olympique qui, comme toute coopération internationale, se croyait un vaccin contre la guerre. Ironie du sort, les Jeux de 1916, s'ils avaient eu lieu, l'auraient été à Berlin, capitale du pays qui porte une responsabilité écrasante dans le déclenchement de la guerre. Durant celle-ci, Pierre de Coubertin décide de transférer le siège du Comité olympique de Paris à Lausanne en Suisse, c'est-à-dire en territoire neutre. Le CIO y est toujours aujourd'hui. Pour accueillir en 1920 les premiers Jeux de l'après-guerre, le candidat idéal n'est autre que la Belgique, pays neutre qui a subi l'invasion allemande, occupée pendant 4 ans et qui s'est défendue courageusement. Le prestige international de notre petite terre d'héroïsme est alors énorme. Avec comme figure emblématique le roi Albert Ier, le roi chevalier, et c'est lui qui inaugure solennellement les Jeux d'Anvers avec deux grandes nouveautés. D'abord, c'est Anvers qui a hissé pour la première fois le drapeau olympique, les fameux 5 anneaux de couleurs différentes entrelacés, symbolisant les 5 continents. Cela s'accompagne du lâcher des colombes de la paix, ce qui, moins de 2 ans après la fin de la guerre, prend évidemment un sens particulier. Ensuite, deuxième grande nouveauté du cérémonial des Jeux, à Anvers est prononcé pour la première fois le serment olympique. Voici à quoi il ressemblait à l'époque. Nous jurons de prendre part en compétiteurs loyaux, d'observer scrupuleusement les règlements et de faire preuve d'un esprit chevaleresque pour l'honneur de nos pays et pour la gloire du sport. Chevaleresque, gloire, honneur, les mots sont un peu datés. Aujourd'hui, le serment évoque plutôt le respect et l'esprit de sportivité. Ce premier serment olympique de l'histoire est prononcé par Victor Bouin. Si vous habitez Saint-Gilles, c'est en son honneur qu'on a donné son nom à la piscine communale. Victor Bouin est un héros de guerre. Il a notamment conduit des automitrailleuses avant de devenir pilote de l'air. Comme sportif, Bouin fait partie de l'équipe de waterpolo avec laquelle il est médaillé aux Jeux de Londres en 1908 et à ceux de Stockholm en 1912. Mais en prime, il participe aussi au concours d'escrime. 4e à Stockholm et médaillé d'argent à Anvers. Ce n'est pas cap à épée, mais maillot et épée. Héros de guerre, disais-je, moins de 2 ans après l'armistice, dans une ville meurtrie par les combats, faut-il, oui ou non, inviter les athlètes allemands? Non, estime le CIO, qui a d'ailleurs suspendu les délégations de l'Allemagne et de ses alliés austro-hongrois, bulgares et ottomans. Le traumatisme de la guerre pose des limites à l'esprit olympique. Venons-en aux compétitions et j'ai choisi de mettre en lumière non pas un sportif, mais une sportive qui marque les Jeux de son empreinte. Si vous regardez parfois le tournoi de Roland-Garros, vous savez qu'à côté du court central, il y a le court Suzanne Lenglen, la légende du tennis français. À Anvers, elle plane sur le tournoi. En remportant aussi 6 fois Roland-Garros et 6 fois Wimbledon, elle deviendra la première star féminine du sport, alors que ne l'oublions pas, Pierre de Coubertin reste très réticent aux participations des femmes aux Jeux. Voici ce qu'écrit l'Écho de Paris durant les Jeux d'Anvers. Ce qui différencie Mademoiselle Lenglen de toutes les autres grandes raquettes féminines, c'est un jeu qu'elle est parvenue à masculiniser, sans toutefois lui rien faire perdre de sa grâce. Elle joue comme un homme qui joue très bien. Pour mieux comprendre, avant elle, les joueuses restaient généralement en fond de cour, alors que Suzanne Lenglen monte au filet et smash, comme un homme. Ajoutez-y qu'elle sera la première à dénuder ses bras et à jouer avec des jupes au-dessus du genou, et on comprendra pourquoi, au-delà de ses performances sportives, elle marquera les esprits dans ses années 20, ses années folles, qui marquent une forme d'émancipation féminine. On termine en évoquant les Belges. Jamais dans une Olympiade, nous n'avons rapporté autant de médailles. 36, dont 14 en or. Ce qui nous place, rendez-vous compte, au 5e rang du tableau des médailles par pays. À Anvers, la Belgique est seulement devancée par les États-Unis, la Suède, la Finlande et la Grande-Bretagne. Un bémol tout de même, nous brillons surtout dans des épreuves assez discrètes. Tir à l'arc, équitation, voile ou haltérophilie. Sur ces 36 médailles, il n'y en a aucune en athlétisme. Mais nous allons tout de même remporter un titre olympique retentissant dans ce qui deviendra au XXe siècle le sport roi, le football. Le 2 septembre 1920, le stade olympique du Kiel, qui est aujourd'hui celui du Berscott, est en ébullition, plein comme un œuf. Alors qu'il est censé contenir 35 000 spectateurs, on vend 44 000 billets pour la finale, Belgique-Tchécoslovaquie. Mais le match ne va durer que 39 minutes. À ce moment, les Belges mènent 2-0. Et un joueur tchécoslovaque est exclu pour avoir donné un violent coup de pied dans le ventre d'un joueur belge qui sort d'ailleurs sur civière. Furieux de cette expulsion, s'estimant depuis le début victime de l'arbitrage, les joueurs tchécoslovaques refusent de reprendre la partie. Tous ceux qui pensent qu'on était autrefois davantage fair-play, qui disent que c'était mieux avant, peuvent nuancer leur point de vue. En tout cas, les Belges sont champions olympiques. Et en foot, on n'a jamais fait mieux. Même si, un siècle plus tard, on a davantage en mémoire la fameuse troisième place de la Coupe du Monde 2018.